Et que j'ai donc le bonheur d'avoir devant moi Denis Martin Chabot qui a sauvé ma vie, puis votre vie à vous qui écoutez autour, parce qu'il vous a permis d'écouter les
Non,
unes, d'avoir des entrevues,
pas
des
tant que
chroniques.
Ça, je t'ai remplacé.
On va en mettre un petit peu plus.
Ah, ben c'est gentil.
Ah,
c'était vraiment agréable de faire cette émission.
Oui.
J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis c'est vraiment une belle équipe. Hein?
Ah, oui.
Moi, j'aime bien Mathieu, c'était le fun. Puis les recherchistes ont le fun. Et puis, non, ça a fait du bien. Puis, moi, c'était un retour. Ça faisait quand même beaucoup d'années que je n'avais pas fait de radio en direct. Ouais.
Ah,
comme animateur, j'en fais là, comme chroniqueur.
Oui.
Ouais.
Ben, on se ressemble un petit peu là-dessus. J'ai fait d'autres parcours.
Oui.
J'ai travaillé beaucoup en immigration. Alors, oui, on a des atomes crochus.
Ah,
on a
oui,
des
je
atomes.
Crois bien.
Je pense que oui. Puis là, aujourd'hui, vous apportez le soleil, une chronique arc-en-ciel.
Ben là, il pleut. Hein? Ça, j'imagine qu'il y a un arc-en-ciel à un moment donné qui s'en vient. Là.
On s'en fait un.
Il y en avait un ce week-end qui était un peu terni. On reviendra là-dessus une autre fois.
On revient une autre fois. Puis là, je vais faire un dernier retour sur la conférence.
Oui.
Hey, 2022, la conférence internationale du SIDA.
Parfait.
C'était d'ailleurs la 24e édition et la deuxième à se dérouler à Montréal. La conférence n'a pas fait état de grandes avancées médicales toutefois,
pas du tout, ouais.
Mais vous avez pu prendre connaissance d'enjeux et de circonstances qui rendent la lutte contre ce virus plus difficile d'ailleurs.
Oui, ben pour le contexte, l'ONU SIDA veut éradiquer la transmission du VIH dans le monde d'ici 2030. Pour y arriver, ça veut dire qu'il faudrait que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Présentement, au Canada, il y a à peu près 15% des gens qui ne savent pas qu'ils ont le VIH. On n'a pas encore atteint l'objectif de 2020, à ce moment-là, qui était 90, 90, 90. Donc, 95% des personnes qui connaissent leur statut sont sous traitement, donc prennent des traitements antirétroviraux, on pourrait dire des TAR, là, des TAR, dans le langage très... très fonctionnaire des choses, et 95% sont indétectables. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est indétectable, on est intransmissible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de transmission du VIH, même lors d'une relation sexuelle sans préservatif. C'est quand même quelque chose. Alors, on appelle ça le message I égale I, et c'est quand même clé là, dans la lutte contre le VIH. Écoutons le Dr Howard New, qui est le sous-administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada.
Je pense que pour les scientifiques, c'est bien établi le fait que indétectable égale intransmissible. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Je pense pour beaucoup de personnes, ce n'est pas encore comme une connaissance que oui, si j'ai un niveau indétectable, il n'y a pas de crainte pour transmettre le virus aux autres. On peut peut-être pour commencer une famille, on peut avoir une vie sexuelle sans préoccupation. Et aussi, peut-être aussi, même des implications légales ici au Canada. Parce qu'on sait qu'on est en train, le gouvernement du Canada, peut-être à réviser qu'est-ce qui existe encore actuel avec les droits. Et je pense qu'avec la science qui continue à évoluer, C'est très important aussi de prendre en considération.
Je comprends que vous n'êtes pas un politicien, vous êtes un médecin, vous êtes responsable un des responsables de la santé publique, que vous n'avez pas à prendre des positions politiques, mais si je vous disais la criminalisation là, de la non-divulgation du VIH, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir changer, disparaître un jour ou l'autre?
Ce que je veux vous dire, c'est Je suis toujours la science. Et si la science dit maintenant avec I égale I que vraiment quelqu'un qui est atteint avec le VIH, mais a un niveau, c'est indétectable, c'est vraiment pas un risque pour les autres. Et donc, je pense qu'il y a toutes sortes d'implications et je pense que c'est pas nécessaire de divulguer à tout le monde votre statut parce que c'est indétectable et c'est pas transmissible. Donc, je pense qu'on peut continuer, recommencer avec une vie normale.
Et le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est le Dr Howard New, qui est sous-administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada. Et si j'avais bien compris, si j'ai bien compris, on parle de la criminalisation de la non-divulgation de son statut sérologique lors d'un rapport sexuel.
Je sais que ça a l'air compliqué à dire, mais là-dessus, là, le Canada traîne de l'arrière sur le reste des pays, je ne vais pas dire du monde, non, mais des pays de l'hémisphère nord ou de l'Occident. Alors, une personne qui, comme moi, est indétectable, donc ne pose aucun risque à mon partenaire sexuel parce que je suis intransmissible, Si je ne divulgue pas mon statut, je risque de me retrouver en prison et d'être reconnu coupable d'une agression sexuelle. C'est pas rien, là. Alors là, même s'il n'y a aucun risque, mais là, là-dessus, je dois dire que le gouvernement fédéral a mis de l'avant un groupe de travail pour étudier la question et éventuellement faire le changement. Je me disais, il me semble que la science est assez claire, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, c'est pas tout. Beaucoup de scientifiques s'entendent pour dire qu'il faut aussi décriminaliser le travail du sexe et les personnes qui utilisent les drogues par injection. Comment ces personnes iront-elles se faire dépister si elles risquent constamment de se faire criminaliser? Pour la docteure Marina Klein, qui se spécialise dans le dépistage et le traitement du VIH au Centre de santé McGill, Université McGill, il faut améliorer l'accès aux tests de dépistage. Et il faut d'ailleurs que les cliniques médicales, comme dans les sites de proximité, il faut aller ailleurs que là. Et puis, comme on l'a vu avec la COVID, hein, on fait appel au groupe communautaire. On écoute le Dr. Klein.
Au point de vue des tests de dépistage, pour le moment, c'est très médicalisé. Ça veut dire que pour avoir un test de dépistage, il faut aller chez un endroit, une clinique ou un hôpital pour avoir son test. C'est-à-dire que quelqu'un qui est stigmatisé, quelqu'un qui ne sait pas comment avoir accès aux soins médicaux, va pas nécessairement arriver à prendre son test. Alors, malgré qu'il y a des tests disponibles, qui peut être fait en communauté, qui peut être fait facilement, comme une thèse de COVID rapide, par exemple, sont pas disponibles pour le monde maintenant. Et ça rend difficile d'arriver à trouver tout le monde qui est positif pour le VIH.
Vous parlez des tests. Il y a aussi toute l'aspect de la stigmatisation. Il y a des gens qui ont peur d'aller passer le test. Ils ont peur de devoir se révéler à un médecin. Il y a tout ça qui joue aussi.
Oui, oui. Ils ont peur, mais ça, c'est un autre côté. Il faut avoir une éducation et un support, surtout dans la communauté, pour amener ces gens au testing. Parce qu'ils peuvent savoir, dès qu'ils sachent les résultats du test, s'ils se trouvent positifs, il y a des traitements qui fonctionnent très bien. Il y a la possibilité de vivre avec la maladie et ne pas transmettre la maladie à d'autres. La raison pour prendre le test, c'est vraiment pour se protéger et pour protéger d'autres personnes. Mais s'il faut trouver la moyenne de trouver le test, il faut divulguer son statut. Ça peut être stigmatisant et ça peut, pour certaines personnes, c'est une grande barrière. C'est pas, aujourd'hui, on avait beaucoup parlé de l'aspect communautaire, comment ils peuvent supporter des gens pour avoir un test ou anonyme ou dans un endroit où ils sont entourés, où ils peuvent avoir l'éducation. C'est une meilleure façon d'arriver à chercher des gens qui ne peuvent pas accéder des tests en ce moment.
Alors, juste pour être clair, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il faut aller ailleurs que dans les cliniques médicales. Pour une personne qui est travailleur ou travailleuse du sexe, c'est pas toujours évident d'aller dans un milieu médicalisé ou institutionnel. C'est la même chose pour les personnes utilisatrices ou utilisateurs de drogue. Alors, rendre ces tests-là dans les milieux communautaires rend les choses, l'accès plus facile et évite cette double stigmatisation. Et puis, il y en a d'autres pour les gens qui ont, pour toutes sortes de raisons, sont pas prêts à se divulguer. Aller dans des endroits anonymes serait donc l'idéal. Il y a aussi donc des autotests du VIH qui existent. Et puis, le Canada a homologué ça depuis quand même, quoi, si je me rappelle bien, 2 ans. C'est un test qui coûte 35 $ et il n'était toujours pas disponible autrement que sous ordonnance. Alors imaginez, nous, on a des tests pour la COVID qu'on peut avoir gratuitement à la pharmacie, mais ça, non. Alors, le gouvernement fédéral vient d'annoncer un investissement massif, 18 millions de dollars, pour permettre aux groupes communautaires de distribuer ces autotests, voire organiser des sites de dépistage.
Puis on pourrait prendre un exemple sur ce qui se passe ailleurs aussi, hein?
Ah oui, et on pourrait s'inspirer de l'hémisphère sud. On pourrait s'inspirer du Maroc, où l'homosexualité est criminalisée, comme le travail du sexe et comme l'utilisation des drogues par injection. Écoutons là-dessus le Dr Mehdi Karkouri de l'Association de lutte contre le sida du Maroc.
Et les solutions... C'est d'abord de faciliter cet accès au dépistage et c'est pour ça que dès le début on s'est battu et nous avons obtenu que le dépistage du VIH puisse être anonyme et gratuit. Donc ça c'est très important, c'est un acquis important. Encore plus, c'est de ramener le dépistage vers les personnes, donc avec cette garantie de confidentialité, d'anonymat. Donc nous avons par exemple des bus qui sont équipés pour le dépistage et qui vont aller dans les endroits un peu reculés, dans les montagnes, dans les endroits qui sont sous-médicalisés pour apporter le dépistage tout en l'apportant en tant qu'association de la société civile, ce qui favorise un petit peu les personnes à avoir recours à ce dépistage. Par exemple, une travailleuse du sexe, elle va avoir beaucoup plus de facilité à recourir à un service de dépistage proposé par une association que d'aller dans le dispensaire du gouvernement du coin et faire le test, par exemple. Nous avons aussi travaillé pour pouvoir démédicaliser le dépistage. On est un pays qui est un petit peu en sous-médicalisé, en sous-effectif de médecins. Il n'y a pas des médecins partout et la loi exigeait jusqu'en 2019 que ce soit un médecin qui fasse le dépistage du VIH. Or, toutes les expériences qui ont été menées dans le monde ont montré que quand on démédicalisait le dépistage, cela permettait d'en faciliter l'accès. Et nous nous sommes battus aussi, là aussi nous avons eu gain de cause, pour que des agents de santé communautaire issus de notre association et d'autres associations qui travaillent sur le même thème au Maroc puissent proposer le dépistage au cœur des communautés dont elles étaient issues, un peu partout, en dehors des horaires officiels d'ouverture, le soir, sur les lieux de drague, sur les endroits de rencontre. Et ça, ça marche très très bien. Et aujourd'hui, ça nous permet à peu près de dépister la moitié des nouveaux cas nouvellement diagnostiqués dans notre dispositif vient du dépistage démédicalisé.
Le dépistage, toutefois, n'est pas le seul obstacle, Denis Martin. Il faut traiter les personnes vivant avec le VIH et dans certains endroits du monde, ça paraît très compliqué.
Oui, et pourtant, ça ne le devrait pas. Alors, rappelez-vous, hein, on dit qu'une personne vivant avec le VIH sous traitement ne transmet pas le virus. Hein, s'il est indétectable, intransmissible, même sans préservatif lors d'un contact sexuel. Le traitement, oui, c'est d'abord la chose à faire, c'est la chose humaine à faire et c'est aussi une façon de stopper le VIH. Écoutons d'abord Manon Raveau, chargée de plaidoyer à Médecins sans frontières pour le projet VIH à Kinshasa, suivi de Stéphanie Dres, coordonnatrice VIH et tuberculose pour le plaidoyer pour Médecins sans frontières.
Vous venez vous avez travaillé sur un projet assez spécifique dont vous allez parler ce soir. Parlez-moi de ce projet.
Alors, le projet VIH, qu'on appelle en fait projet SIDA, encore à Kinshasa, donc il est ouvert depuis une vingtaine d'années maintenant au moins. Et c'est un projet qui a pour focus de prendre en charge et de prévenir le VIH avancé, donc le sida, pour les populations de Kinshasa, les environs, mais parfois même tout le pays, parce qu'il y a des patients qui viennent de partout. C'est en fait un des seuls centres qui est capable de prendre en charge les patients qui sont atteints du stade avancé. Donc, on peut retrouver des personnes qui viennent vraiment de partout, parfois même de temps en temps de l'étranger.
Et justement, c'est quoi le défi là-bas? Je sais qu'ici à la conférence, on parle de l'accès au dépistage, l'accès aux médicaments. Comment ça se présente là où vous étiez?
Alors, c'est certain que le Congo est un très grand pays, mais déjà même au niveau de Kinshasa, le défi, ça va être vraiment le gap de dépistage pour commencer. Ensuite, avoir le support nécessaire pour détecter au plus tôt possible le stade d'avancée du VIH. Et dans le même temps, je dirais, d'être en mesure d'accompagner les personnes qui sont déjà sous traitement. Parce qu'au niveau, par exemple, de l'hôpital pour le projet VIH, on a quand même une majorité en fait, des personnes de la cohorte qui ne sont pas des personnes qui n'ont jamais été sous traitement. Il y a aussi des personnes qui ont été détectées trop tard et qui sont détectées au moment où ils sont en stade avancé. Mais il y a certaines personnes qui ont été sous traitement, qui l'ont arrêté pour plein de raisons possibles et qui, du coup, se retrouvent ensuite à développer des infections opportunistes, à tomber malade et arriver au niveau de l'hôpital, à un stade très, 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 très avancé qui va compliquer leur prise en charge par la suite.
Donc, dans l'optique là, qu'on a l'idée qu'on veut éradiquer le VIH d'ici 2030, comment on peut faire ça dans un pays qui a autant de difficultés? Vous êtes allé là, c'est pas pour rien, parce qu'il y a des difficultés. Comment on va y arriver à ce moment-là?
Mais en fait, nous, ce qu'on essaie de montrer aussi avec ce projet-là, c'est qu'il y a quand même des interventions qui sont... on imagine que prendre en charge le VIH avancé, c'est très, très compliqué, c'est très, très coûteux. Mais il y a quand même des modèles, en fait, qu'on a développés, bon, pas tout seul, mais qu'on essaie de promouvoir aussi au niveau de l'hôpital et des centres de santé environnants qu'on soutient, des moyens qui sont pas forcément coûteux pour détecter certaines maladies que les patients avec le stade avancé pourraient présenter. Donc on peut parler du TB-Lab pour détecter la tuberculose au niveau déjà des centres de santé, donc au niveau primaire. On peut parler des machines Visitech pour pouvoir mesurer le taux de CD4 pour les patients qui se présentent aussi au niveau centre de santé. Donc nous, vraiment, ce qu'on essaie de montrer à travers ce projet-là, c'est des façons qui sont finalement pas si coûteuses pour mettre à l'échelle, en fait, une détection plus précoce du stade avancé pour éviter d'avoir des patients qui arrivent à un stade, voilà, qui va être un stade du sida plus difficile, finalement, à prendre en charge si on les avait détectés plus tôt, même au niveau ambulatoire.
D'accord. Je vais aller vers vous, Stéphanie. Ce genre de projet, c'est le genre de projet que vous proposez partout dans le monde?
Bon, partout dans le monde, pas tout à fait, mais dans de nombreux pays. Donc, oui, MSF travaille dans plus de 70 pays à travers le monde, et on a une vingtaine de pays qui ont des projets VIH, de tous ordres. Mais donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de nos projets qui ont une composante du VIH avancé, donc niveau hospitalisation, qui est le niveau le plus complexe, parce que c'est vrai que dépister les gens au niveau primaire, les mettre sous traitement, ça, c'est assez simple. Mais donc en général, on a toujours une composante, un lien avec le niveau secondaire où il y a énormément de besoins non couverts, en fait. Et donc par rapport à votre question des gaps, si je peux compléter ce que Manon disait, je pense qu'effectivement, on a démontré avec notre projet à Kinshasa, mais aussi d'autres projets dans le monde, qu'il y a des solutions. On n'est pas les seuls à démontrer qu'il y a des solutions. En fait, les recettes, on les a, on sait ce qu'il faut faire. Il faut s'appuyer sur la communauté, il faut donner les moyens de diagnostic et les traitements au niveau primaire, il faut avoir un lien avec le niveau secondaire pour les patients qui présentent des stades avancés de la maladie. Mais donc ce qu'il faut maintenant, c'est de l'argent, c'est du financement pour être sûr que l'accès soit disponible partout en RDC et partout dans le monde.
Daniel, avant de reprendre, je me suis rendu compte que j'ai mal présenté Manon Raveau. Je ne sais pas pourquoi, je me suis fourvoyé. Alors, elle est chargée de projet à Médecins sans frontières. C'est la première personne qu'on a entendue. La personne qu'on vient d'entendre, c'est Stéphanie Dres, qui est coordonnatrice VIH et tuberculose pour le plaidoyer, toujours chez Médecins sans frontières.
Toujours chez Médecins sans frontières. Et puis, ben, tout ça, c'est toujours de l'argent. On parle d'argent.
C'est toujours de l'argent. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Indétectable et transmissible, quand les gens sont sous traitement, ils ne transmettent pas le VIH. Le problème, c'est que des traités, ben, il faut avoir de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Et là, on se rend compte que les médicaments, ça coûte cher, les médicaments. C'est en Amérique du Nord, moi je le sais, là, c'est à peu près 1 200 à 1 500 $ par mois. On a des assurances qui remboursent, mais parfois il y a des franchises. Alors nous, déjà, on trouve qu'il y a des obstacles parce qu'il y a des franchises à payer. Dans ces pays, ben, il faut avoir les médicaments. Les pharmacies, les pharmaceutiques, bon, font des petits efforts maintenant parce que, évidemment, ça ne paraît pas bien de charger tant d'argent à des pays en développement, mais il y en demeure pas moins que c'est le nerf de la guerre. Et il y a eu un tel désengagement des gouvernements, il faut le comprendre, mais c'est quand même pas idéal avec la COVID-19. Dans le VIH, bien, on a comme cessé ou on a moins investi dans la recherche. Alors, on a appris que la recherche sera même 5 ans en retard avec tout ça à cause des engagements des gouvernements. Mais si on veut éradiquer le VIH, et on peut l'éradiquer d'ici 2030, peut-être 2040 maintenant, ben, il va falloir vraiment s'attaquer à la transmission. Puis si on veut arrêter la transmission, il faut que les gens qui connaissent leur statut prennent la médication et deviennent intransmissibles.
Il va y avoir beaucoup d'éducation à faire.
Alors, c'est une génération complète, probablement.
Une génération complète. Denis Martin Chabot, quelle chronique intéressante qui, justement, vous avez fait votre retour sur la 24e édition de la Conférence internationale du sida, je le rappelle aux auditeurs. Et c'était la deuxième conférence internationale qui a eu lieu ici à Montréal.
Parfait.
On aura peut-être l'occasion de se retrouver d'ici la fin du mois d'août. Vous nous ferez la surprise, tiens.
Oui, oui. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi parce que les deux dernières semaines ont été hyper occupées.
Oui, j'ai pu entendre la semaine dernière et en plus, vous m'avez remplacé au micro.
Oui.
Alors, faites-nous la surprise ou sinon, au retour des vacances d'Hélène, pourquoi pas, on ne sait pas.
On ne sait pas, on verra bien. C'était un plaisir, Daniel.
Oui, un plaisir, vraiment.
Ouais. Au revoir.